Radio Campus Lille, il est 20h.
La voix sans maître.
Émission radio.
Des anarchistes du Centre culturel libertaire, de Lille,
de partout
et d'ailleurs.
Radio CCL.
Non. Si jamais il y a un.
Radio CCL, attends, moi j'ai entendu ça. Ça existe apparemment.
Vous écoutez La Voix sans maître
sur Radio Campus 106.6.
J'emmerde le travail, j'emmerde la patrie, j'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde le droit pater qui écrivent. Société caca, société pipi, société capitone capitaliste, société caca, société pipi, arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser.
Et bonsoir à tous les auditeurs de La Voix sans maître. Et donc, comme tous les vendredis soirs entre 20h et 21h sur 106.6, c'est l'émission de La Voix sans maître. Et alors, on va, comme tous les derniers vendredis du mois, l'émission de La Voix sans maître laisse la place à l'émission de L'Arrache.
Ouais, ouais, ouais.
Et alors, du coup, nous sommes avec Mito qui vient de nous dire ouais, 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 et
ouais, ouais,
avec Enzo.
Son micro, il n'est pas allumé.
Ah, et le. Alors, du coup, on va directement, pour ne pas perturber les auditeurs et auditrices, commencer par le traditionnel agenda de la semaine. En ce moment même, au CCL, après nous avoir écoutés, nous vous invitons à rejoindre la soirée de soutien aux TRAVS et aux SMAF. Donc, le TRAVS, qui est un collectif de sport. En mixité de personnes trans et en questionnement, et le SMAF, qui est un collectif de sport en mixité. Demain, à 14h30, nous avons l'Assemblée Générale, donc ça sera au CCL numéro 1. Demain soir, à partir de 20h30, vous pourrez écouter un merveilleux concert de Jobiezas, plus Most et plus Gravier. Et le 1er juillet, vous pourrez écouter un concert de La Sosla, de Volture, Yen and Coyote et de Boucan. Le vendredi midi, à 12h30, nous avons la cantine vegan traditionnelle du CCL avec un menu exceptionnel. Et au soir, à 20h, il y aura un concert de Gutter plus Turquoise plus Mixon et Mère Mortale. Et alors, cette émission, qu'on va commencer tout de suite, elle est un petit peu particulière parce que c'est notre dernière émission en direct de l'année. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pourrez continuer à nous écouter sur 106.6 durant les vacances. Au mois de juillet, nous allons diffuser un podcast sur les prisonnières palestiniennes. Et au mois d'août, nous allons diffuser une playlist qui sera choisie à laquelle vous pouvez contribuer en envoyant un mail à l'arrache, donc l'arrache@riseup.net, si je ne me trompe pas.
Ouais, juste l'arrache, c'est l-8a2rache@riseup.net. Enfin, c'est pas. Il y a un petit tiré entre le L et le arrache. Voilà. Mais ouais, n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs sons, les trucs qui vous feront kiffer cet été à écouter là. N'hésitez vraiment pas, on mettra ça pour le dernier vendredi du mois d'août. La fin de l'été, juste avant la rentrée.
Et alors, pour les événements, pour continuer un petit peu sur l'agenda avec les événements qui ne se passent pas au CCL, il y a demain à 13h un départ collectif pour la manif vers Dunkerque, dont Enzo nous parlera tout à l'heure. Et le dimanche 29, un ciné-débat, comme chaque dernier vendredi du mois. Et c'est un documentaire sur les sports de combat en tant que femme trans, avec des membres du TRAV, donc le collectif qui fait une soirée de soutien en ce moment même au CCL et à qui on dit bonjour, qui qui est un collectif de sport en non-mixité, transfemme et en questionnement. Et ça, c'est à 19h30 à la salle André Zoët à Marbrerie. Et on va pouvoir commencer l'émission par un jingle de qualité.
Le jingle de l'arrache,
le meilleur jingle de l'univers.
Si ça part.
Et si, alors ça marche, mais...
ça y est, il est là.
Une heure de radio contre toutes les prisons, chaque dernier vendredi du mois, de 20h à 21h.
Cette émission est animée par le collectif L'Arrache.
Crève la tôle.
Commencez par libérer Bison.
Et on est de retour avec L'Arrache. Alors aujourd'hui, enfin ce soir, le programme, ça va être, on va d'abord vous parler de la grève de la faim de Maya, qui est une personne enfermée en Hongrie. Puis on vous parlera de Kanaki. Puis ensuite, nous vous lirons une lettre de Fabrice Borromé avec un petit peu de contexte. Puis nous parlerons de la loi narcotrafic et enfin un podcast dont je vous laisse le secret. Et ce soir, nous sommes, en plus de Enzo et Mito, avec deux auditeurs et auditrices réguliers de l'arrache, choisis de manière complètement arbitraire. Est-ce que vous dire bonjour ? Qui nous feront des blagues et du contexte.
De ouf.
Et alors du coup...
On n'a jamais été aussi nombreux dans le studio, ça fait plaisir.
Si, quand même, si. Des fois. Ah ouais. Pour la... Ça nous est déjà arrivé.
Pour la première.
Pour la première. Non, pour la Kanaki. Et alors du coup, notamment Mito, est-ce que tu veux commencer par nous introduire la grève de la faim de Maya? Nous expliquer juste un petit peu le contexte.
Juste, il y a le copain là, Patrick. Patrick, désolé, mais je crois qu'il y a Enzo qui doit parler avant.
C'est vrai.
De ce qui se passe c'est demain vrai. Dans le Dunkerquois. Du coup, je pense.
C'est vrai.
Je lui laisse la parole, mais tranquille.
Allez, on
quel
est sympa.
Lancement. Mais ouais, grave, demain, on voulait vous parler d'un rassemblement qui a lieu demain à 15h devant le tribunal de Dunkerque pour soutenir les proches de Jamel Benjabala qui a été assassiné par un nazi. Ça, c'est arrivé le 31 août 2024. Du coup, il y a bientôt un an. Dans une petite ville à côté de Dunkerque, la personne du coup qui s'appelle Jérôme Décofour, il a foncé sur Jamel Benjabala avec sa voiture, et après l'avoir percuté et qu'il soit au sol, il lui a roulé dessus, tout ça devant les yeux de sa fille, et après il s'est taillé. Et du coup, pour décrire un peu le personnage, il y a genre un drapeau français, une machette, une sacoche avec un écusson Brigade Française Patriote qui a été retrouvé dans son coffre. Et aussi des armes à feu après à son domicile. Et Jamel Benjabala, il avait plusieurs fois porté plainte contre ce gars, Jérôme Décofour, pour injures racistes. D'ailleurs, sa sœur témoigne du fait qu'il se faisait traiter d'insultes racistes par celui qui l'a tué. Dans la presse, ils ont consulté plusieurs plaintes qui ont été déposées du coup, par Jamel Benjabala. En 2023, dans lequel il faisait état d'insultes à caractère raciste et d'un sentiment d'insécurité. Notamment, là, je le cite, il disait « Je suis inquiet vis-à-vis de cette personne, car je sais qu'il possède des armes à feu. » Il s'inquiétait aussi du fait que le gars se renseigne sur sa propre fille, ou qu'il s'était vu offrir par le tueur un genre saucisson avec écrit « Halal » dessus, où sa famille elle évoque aussi des peluches en forme de cochon, des trucs dégueulasses comme ça. Et bien sûr, après, sur ces plaintes, la police, elle a rien fait. Et du coup, toutes les plaintes qui ont été déposées par Jamel Benjabala, elles ont été classées sans suite. Et du coup, le rassemblement qui a lieu samedi, c'est pour soutenir les proches qui luttent pour requalifier le meurtre de leurs proches, du coup, en crime raciste. Du coup, là, je les cite un peu. Ce qui nous importe, c'est qu'on puisse reconnaître que c'était quelqu'un qui avait des opinions profondément racistes et que cette affaire n'est pas juste un fait divers ou une question de jalousie, mais plutôt quelque chose qui est motivé par l'origine ethnique. Et ça semble évident pour tout le monde, sauf pour l'instant, pas pour le proc ni pour le magistrat. Alors encore une fois, le racisme et l'islamophobie est tue, et pour Jamel Benjabala, comme pour tant d'autres, c'est encore une fois avec la complicité des keufs et de la justice. Et d'ailleurs, on voulait aussi dire qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans, jour pour jour, que Naël il a été tué par un keuf. Il y avait un gros rassemblement cet après-midi à Nanterre, à l'initiative de la mère de Naël notamment.
Et bah, du coup, on a une pensée pour Naël et sa famille en vrai, parce que j'ai l'impression que... Il n'y a pas grand-chose qui a dû, qui a avancé par rapport à la reconnaissance de ce crime. Mmh. Et du coup, si vous voulez nous rejoindre pour aller à cette manifestation à Dunkerque, c'est demain au local de la CNT, 32 rue d'Arras. Si vous avez une voiture, n'hésitez pas à venir avec votre voiture.
Et le rassemblement, du coup, c'est 15h directement devant le tribunal de Dunkerque. Ça, c'est le rassemblement. Et le départ, il est à 13h de Lille, devant la CNT.
Bah ouais, et du coup, si alors après ça, on peut peut-être passer du coup à la deuxième partie. Et du coup, je sais pas si Mytho, tu veux nous donner ce coup-ci du contexte sur un petit peu la grève de la faim de Maya.
Ouais, carrément. On va parler un peu de Maya, on va parler de l'affaire de Budapest. C'est pas la première fois que le vendredi soir, on parle de cette affaire-là. On en avait beaucoup parlé ces derniers mois par rapport à Gino qui était enfermé en France et qui était en risque d'être extradé vers la Hongrie. Finalement, la justice française a refusé de l'extrader en Hongrie parce que, soi-disant, la Hongrie ne respecterait pas la dignité humaine dans sa manière d'enfermer les personnes. Du coup, pourquoi ces personnes sont suivies ? En fait, c'est des personnes antifascistes qui sont poursuivies. Juste avant, on parlait de nazis. Il faut savoir que le 11 février à Budapest, c'est la journée de l'honneur. C'est l'un des plus grands rassemblements européens néo-nazis. Du coup, c'est quoi la journée de l'honneur ? En gros, ce jour-là, ils rendent hommage à un soldat allemand de la Waffen-SS, aux soldats allemands de la Waffen-SS et aux troupes hongroises qui tentèrent de rompre le siège soviétique du château de Buda lors de la bataille de Budapest en 1945. Donc comme chaque année, il y a des contre-manifestations qui sont organisées. Et du coup, il y a 2 ans, Orban, il a décidé de poursuivre pas mal de personnes antifascistes. Il y a pas mal de... c'est un mouvement européen, les personnes qui se mobilisent là-bas. Il y a bien évidemment des Hongrois, mais il y a aussi plein d'autres nationalités européennes, d'autres militants antifascistes qui vont en Hongrie pour participer à cette contre-manifestation. Et il y a tout un tas de personnes qui ont été poursuivies par le pouvoir d'Orban suite à ces contre-manifestations, même si c'est pas passé grand-chose et qu'en fait les faits sont plutôt... il n'y a aucune preuve matérielle, juste Orban, on connaît sa couleur politique et donc du coup il s'attaque aux antifascistes, dont Maya, dont Gino, dont on a parlé. Et du coup là, Maya s'est mis en grève de la faim le 5 juin, aujourd'hui c'est sa 22e journée de grève parce qu'elle continue, et du coup on voulait lire à l'antenne sa déclaration de grève de la faim qui explique beaucoup de choses.
Alors du coup, une déclaration que je vais vous lire, alors peut-être juste un petit peu, je pensais à une info quand tu parlais de Orban il y a 5 minutes, je crois que c'est hier ou aujourd'hui, j'ai lu que le deuxième pays en Europe qui finançait le plus les associations anti-LGBT ou contre les personnes LGBT, c'était la France. Donc je trouve que ça fait aussi un lien en vrai, que c'est pas juste un truc qui se passe en Hongrie, que c'est un peu un truc global quoi. Et donc je vais vous lire la déclaration de grève de la faim de Maya. Mon nom est Maya. Il y a presque un an, j'ai été extradé de manière irrégulière vers la Hongrie. Depuis lors, je suis emprisonné ici dans des conditions inhumaines d'isolement prolongé. Hier, le 4 juin 2025, la décision sur ma demande de placement en résidence surveillée devait être prise. Cette décision a été reportée. Les dernières demandes de placement en résidence surveillée ont été rejetées. Je ne suis plus disposé à rester dans cette situation intolérable et à attendre les décisions d'une justice qui, au cours de ces derniers mois, n'a cessé de violer systématiquement mes droits. En conséquence, je commence aujourd'hui, le 5 juin 2025, une grève de la faim. Je demande à être renvoyé en Allemagne et à pouvoir retrouver ma famille et à participer au procès en Hongrie depuis chez moi. Je ne peux plus supporter les conditions de détention en Hongrie. Ma cellule a été placée sous vidéosurveillance permanente pendant plus de 3 mois. J'ai dû porter des menottes en permanence à l'extérieur de ma cellule pendant plus de 7 mois, parfois même à l'intérieur. Que ce soit pour faire des courses, téléphoner via Skype ou recevoir une visite. Les gardiens de prison effectuent un contrôle visuel de ma cellule une fois par heure, même la nuit, et allument toujours la lumière. Je dois subir des contrôles intimes qui m'obligent à me déshabiller complètement. Les visites
avait lieu dans des pièces séparées, où j'étais séparé de ma famille, de mes avocats et de mes représentants officiels par une vitre. Lors de ces contrôles de cellules, les gardiens laissent derrière eux un chaos complet. Les conditions de construction empêchent une exposition suffisante à la lumière du jour. La cour minuscule est en béton et recouverte d'un grillage. La température de l'eau de la douche ne peut être réglée. Ma cellule est constamment infestée de punaises de lit et de cafards. Il n'y a pas eu d'approvisionnement suffisant en nourriture équilibrée et fraîche. Je suis également soumise à un isolement prolongé. Pendant près de 6 mois, aucun contact avec d'autres détenus n'a été possible. Aujourd'hui encore, je vois ou entends d'autres personnes moins d'une heure par jour. Cette privation durable de contact humain est destinée à provoquer des dommages psychologiques et physiques. C'est pourquoi les normes pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe prévoient au moins 2 heures de contact humain significatif par jour. L'isolement prolongé, l'enfermement d'un détenu pendant au moins 22 heures par jour durant plus de 15 jours est considéré comme un traitement inhumain ou une forme de torture, selon les règles Nelson Mandela des Nations Unies. Ici, en Hongrie, je suis enterrée vivante, dans une cellule de prison. Et cette détention provisoire peut durer jusqu'à 3 ans. Pour ces raisons, je n'aurais jamais dû être extradée vers la Hongrie. Le tribunal régional supérieur de Berlin et la commission spéciale Lynx de l'Office régional de police judiciaire de Saxe ont planifié cette extradition, contournant en toutes intentions mes avocats et la Cour constitutionnelle fédérale allemande. Le 28 juin 2024, quelques heures après mon extradition éclair, la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que je ne pouvais être extradé pour le moment. Le 6 février 2025, elle a décidé que mon extradition était illégale. Depuis, aucun des responsables a été tenu responsable de leurs actions. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réparation pour moi. Par ma grève de la faim, je veux aussi attirer l'attention sur le fait qu'aucune autre personne ne devrait être extradée vers la Hongrie. Actuellement, c'est surtout Zaïd de Nuremberg qui a besoin de cette attention, car il est sérieusement menacé d'extradition vers la Hongrie. Je me déclare solidaire de toutes les personnes antifascistes poursuivies dans le cadre de la procédure de Budapest. Et alors, je ne sais pas si, après cette lecture d'une lettre qui, enfin, je pense, dénonce et montre des conditions de détention, vous avez envie de réagir un petit peu à ça.
Juste comme Maya le dit, en vrai, il y a d'autres personnes qui sont encore poursuivies pour ça. Et juste pour faire un petit point, le 20 juin, la justice hongroise, elle a refusé son assignation à résidence. Le motif pourquoi ils ont refusé l'assignation à résidence qui lui permettrait de sortir de prison, c'est qu'il y aurait des risques de fuite vers l'Allemagne, normal, c'est ce qu'elle demande. Voilà. Du coup, les autres choses à dire, c'est qu'en vrai, en ce moment, il y a quand même pas mal de manifs, de rassemblements ces derniers jours, ces dernières semaines, enfin, depuis qu'elle s'est déclarée en grève de la faim, à Munich, à Dresde, à Hambourg, à Hanovre, à Vienne, à Thessalonique et dans d'autres différentes villes d'Europe. Souvent, ça se passe devant des consulats ou des ambassades de l'Allemagne ou de la Hongrie avec le slogan Free Maya. Voilà. Et puis aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est son 22e jour de grève. Ça commence vraiment à faire long. Ses capacités physiques et mentales commencent tout doucement à dégrader. Du coup, voilà, on pense fort à elle. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur basque.news, basque, B-A-S-C-S. Ah non, j'ai bégayé là, je crois que ça ne marchait pas. B-A-S-C.news. Voilà, si vous êtes germanophone.
Et ben oui, du coup, en vrai, un énorme soutien à Maya. Et peut-être pour. Alors, je ne sais pas si ça fait un lien avec la déportation de prisonniers et l'extradition de prisonniers dans des pays autres. Peut-être que Enzo, tu vas pouvoir nous parler de ce qui se passe un peu en Kanaky.
Ouais, bah là, pour le coup, on voulait plutôt annoncer des bonnes nouvelles. Ça concerne.
Oui, les bonnes nouvelles.
Hein?
C'est toujours agréable, les bonnes nouvelles.
Bah ouais, c'est des personnes qui sont libérées, du coup, c'est des bonnes nouvelles. La libération, du coup, de Steve Huney, Dimitri Kenege, Christian Tin, Guillaume Vama et Yewa Watean, qui sont 5 militants indépendantistes kanak, qui avaient été arrêtés, déportés vers l'Hexagone et qui étaient enfermés dans les prisons françaises depuis les révoltes en Kanaky de mai-juin 2024. Mais bon, du coup, leur remise en liberté, elle est pour l'instant accompagnée d'un contrôle judiciaire qui leur interdit de se rendre en Kanaky. Du coup, pour leur coup, la déportation, elle reste en vigueur, quoi. Et au-delà de ces cinq militants, il faut aussi dire qu'il y a plusieurs dizaines de prisonniers kanaks qui sont toujours enfermés dans les prisons de l'Hexagone, après avoir été déportés de Kanaky par l'État français. Et du coup, cette déportation, elle rajoute à l'enfermement, l'éloignement des proches et l'isolement. Et du coup, on voulait aussi faire un petit rappel des révoltes du printemps 2024 en Kanaky. Du coup, c'est en mai 2024, il y a un an, que des révoltes ont eu lieu en Kanaky. À la base de ce soulèvement, c'était la volonté de l'État français de passer en force sur ce qu'on appelle le dégel du corps électoral. Mais c'est un mot un peu compliqué. En gros, ça, c'est un moyen pour l'État de rendre minoritaires les Kanaks dans leur pays lors des élections, et notamment dans les élections concernant leur indépendance. Et donc ça, c'est un moyen de poursuivre une colonisation de peuplement. Et du coup, le 14 mai d'il y a un an, l'Assemblée nationale, elle a adopté le projet, et en réponse, il y a eu une révolte en Kanaky. Et la réponse de l'État à ces révoltes, ça a conduit à 12 Kanaks qui ont été tués, des centaines de blessés et plus de 3000 interpellations. Tout ça, du coup, commis par l'État et avec le soutien des milices racistes et coloniales sur place. Et du coup, dans la suite de cette répression, il y a eu 13 militants et militantes kanaks, du coup, de la cellule de coordination des actions de terrain, CCAT, qui ont été mis en examen avec des chefs d'inculpation qui relèvent de la criminalité et de l'association de malfaiteurs. Et du coup, il y a, parmi ces 13, du coup, il y a 7 d'entre, parmi elles et eux, qui ont été déportés à 18 000 km de chez eux dans la nuit du 23 juin 2024 de Kanaky vers la France. Et du coup, parmi eux, il y avait Christian Tain, Guillaume Vama, Dimitri Kenégé, Steve Huné et Yewa Watéan, qui ont donc été libérés ce mois-ci, un an après leur enfermement. Et du coup, les deux autres personnes, Brenda Wanabo et Frédéric Muliava, ils avaient été libérés avant, ils sont sous contrôle judiciaire. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, au-delà des militants qu'on a cités, il y a toujours une soixantaine de prisonniers kanaks qui ont aussi été déportés en France pour des motifs qu'on, enfin, appelés de droit commun. On voulait dire que pour soutenir les militants de la cause kanak et leurs prisonniers, il y a un collectif qui existe, c'est le collectif Solidarité Kanaky. Et depuis récemment, il y a une déterre de créer une branche de ce collectif à Lille. On avait partagé l'émission de radio un peu avec eux en avril. Et du coup, si vous souhaitez la réécouter, c'est possible, cette émission de radio, sur notre nouveau site internet, du coup avec les podcasts dispo. D'accord. Et aussi le collectif Solidarité Kanaky, ils ont un site internet pour avoir toutes les infos qui s'appelle solidaritékanaky.fr.
Et alors du coup, si je ne me trompe, en ce moment même aussi, il y a une réunion ou un truc... c'est en train de se créer ce collectif-là à Lille.
Ouais, le collectif Solidarité Kanaky, il est en train de s'organiser en ce moment. Et du coup, je pense qu'il y a des événements en public peut-être qui vont être...
arriver peut-être.
Ouais, c'est ça.
Et alors notamment, tu nous as parlé du site internet pour retrouver les émissions. Donc oui, c'était celle du mois d'avril. Et normalement, si sur un moteur de recherche quelconque, vous tapez quelque chose qui ressemble à Lille Antitôle, la personne qui a le site, on te dit un grand bonjour si tu nous écoutes en ce moment. Du coup, Lille Antitôle, on est en train de taper. Non, ça ne marche pas. On vous tiendra au courant à la rentrée. Mais tous les podcasts, enfin toutes les émissions seront disponibles en podcast dans un temps prochain.
Ouais, puis au pire, peut-être sur radiocampuslille.com, peut-être il y a moi et que l'émission du mois d'avril, elles sont encore dispo. Je sais pas, en tout cas, mois de mai, sûr et certain, oui. Avril, peut-être. Sinon,
parce que,
d'ailleurs, patienter, j'essaie de trouver dans les méandres de l'internet, notre site internet.
Peut-être qu'avant et à la fin de cette émission, on aura un URL à vous fournir.
Pas sûr, ouais, grave.
Mais peut-être, ou au pire en septembre, c'est sûr. Bah, en tout cas, on dit bonjour.
Et puis au pire, en vrai aussi, juste comme ça au passage, si vous souhaitez écrire des lettres aux prisonniers kanaks, en vrai, il y a le collectif L'Arrache qui anime actuellement cette émission, qui propose des ateliers d'écriture une fois par mois. Du coup, n'hésitez pas à vous tenir informé, à nous envoyer un mail si ça vous intéresse, et on vous recontacte et on vous donne le prochain atelier d'écriture qui va bientôt arriver en vrai au mois de juillet. On en parle juste après par rapport à Fabrice.
Ok. Ben alors justement, oui, c'est parce que il y a une, on voulait lire une autre lettre aussi, la lettre de Fabrice Borromée. Alors, je sais pas si introduire un contexte.
Je peux en parler un tout petit peu. Ouais, carrément. Fabrice Borromée, c'est un correspondant du journal L'Envolée, l'émission L'Envolée. D'ailleurs, ils sont en direct actuellement sur Paname. Du coup, on leur fait un petit coucou. On peut pas s'écouter.
Bonjour.
Mais voilà. Du coup, c'est un correspondant de L'Envolée, je disais, depuis des années. C'est une lettre qu'on nous a transmise parce qu'il souhaitait qu'elle soit largement diffusée. Du coup, ça fait chaud au cœur de pouvoir la lire ce soir. Petit élément de contexte. Du coup, Fabrice, c'est une personne qui a grandi en Guadeloupe. Il s'est fait arrêter en 2010 et il a été déporté en métropole en 2011. Depuis, il demande son transfert en Guadeloupe pour être proche de ses proches. C'est un peu bizarre à dire, mais voilà, il souhaiterait être enfermé en Guadeloupe. Du coup, il s'est révolté plusieurs fois depuis 2011 contre l'administration pénitentiaire et contre ses conditions de détention en métropole. Du coup, souvent, comme bien souvent, malheureusement, quand tu te révoltes, bah, la paix, elle se venge en vrai. Enfin, on va pas faire semblant. Les matons se sont vengés. Il a été signalé comme un détenu particulièrement sensible. Et du coup, ils l'ont envoyé dans les prisons les plus dures de France, de la métropole, que ce soit Vendin-le-Vieil juste à côté, qui vont accueillir les quartiers d'isolement avec la nouvelle loi narcotrafic, mais aussi à Saint-Maur, que tous les détenus de France appellent Santa Muerte, malheureusement. Voilà. Et de base, il avait été enfermé pour 8 ans. Et suite à toutes ces révoltes, bah là, il va devoir tirer plus de 20 ans de prison. Voilà, du coup, on va lire sa lettre qui dit beaucoup de choses et voilà, on te passe le coucou, Fabrice, même si tu peux pas nous entendre depuis Valence.
Et donc oui, du coup, là, je vais vous lire la lettre de Fabrice, donc Fabrice Borromée, qui date du 12 mai 2025 et qui est envoyée donc du coup depuis le centre pénitentiaire de Valence. Là, il est 2h10 du matin et je pense à ma vie, à mes douleurs et mes souffrances, depuis que je suis en prison en France et que la justice couvre tous ces matons dans leurs méfaits. Quand j'ai compris que la vie serait dure pour moi, c'est quand j'ai vu ma mère mourir de jour en jour pendant 2 ans, de 6 à 8 ans, à l'hôpital, d'un cancer des os. Les 6 premiers mois, elle commençait à ne pas trop manger, elle maigrissait. Les 3e 6 mois, elle perdait ses dents et ses cheveux, et elle sentait mauvais comme un cadavre en décomposition. On mettait des masques pour la voir. Les 6 derniers mois, elle ne parlait plus parce que le cancer a atteint la gorge. Et le 3 novembre 1989, à 22h30, on nous a dit qu'elle était morte. Et ça m'a fait mal. Après, j'ai passé 5 ans à la DAS dans les pires humiliations et tortures par des éducateurs et éducatrices qui nous punissaient en nous mettant à genoux tout nu dans le gravier, avec dans chaque main un dictionnaire. Et quand on baissait les bras, il nous frappait, moi et mon frère Eddy. Après, à 13 ans, on nous a placés dans une famille d'accueil beaucoup plus violente. On était leurs petits esclaves. On faisait tout. La vaisselle, nettoyait la maison, on tondait le gazon, on lavait les voitures et après, on faisait nos leçons après l'école. Ils nous frappaient avec des lianes, sache-le. À 16 ans, je suis rentré en prison. Voilà mon enfance. Là, j'ai déjà passé 28 ans derrière les barreaux, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 44 ans, pour des braquages, violences avec armes et des prises d'otages. 3. Et une tentative d'évasion en Guadeloupe, avec mon frère Eddy. La police m'a donné une balle à l'épaule gauche. Et depuis le 8 août 2011, on m'a déporté en prison, en France, loin de ma famille, de ma culture, de mes origines. Là, mon calvaire a commencé. J'ai passé 10 ans en isolement et 3 au quartier fermé de Vendin-le-Vieil, à être humilié et torturé par des matons casqués avec des boucliers, menotté à tous mes déplacements hors cellule et même traité de sale macaque et de sale nègre et que je pue. Mais le pire, c'est le 16 juin 2017 à 16h47. J'ai bloqué la douche pour un transfert en Guadeloupe, à la centrale de Saint-Maur. Les matons et les Eris ont failli me tuer avec 2 grenades DBD. Et là, je suis handicapé, sourd de l'oreille gauche, et je porte un appareil auditif à la droite. Mais le pire, c'est que ces bâtards ont déposé plainte contre moi pour tentative d'assassinat. Et là, je me dis que vraiment, nous les Noirs des Outre-mer et Guadeloupéens, on n'a pas les mêmes droits que les autres détenus en France. Et si vous voulez savoir, je ne crois pas que je sortirai vivant de tout ça. Sachez-le. C'est grâce à la boxe thaï que je pratique depuis l'âge de 8 ans que j'ai pu tenir. Si jamais des gens veulent m'écrire, donnez-leur mon adresse. Et donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à cette lettre qui est pareil comme ça, de manière enfin, assez intense.
Moi, je pense que c'est dur de réagir. En vrai, on pense à lui. Juste par rapport à, comme il dit, il finit sur... je pense qu'il dit tout, du coup, il n'y a pas besoin de faire de commentaires. En vrai, désolé, je suis un peu ému. Juste, on avait dit, par rapport à son numéro d'écrou et la possibilité de lui écrire. En vrai, l'Arrache, il organise un atelier d'écriture le 14 juillet. Il y aura d'autres choses, il y aura un peu de musique, il y aura de la distro, il y aura des zines qui vont traîner. Tout ça, ça se passera dans l'après-midi. En vrai, on a l'Arrache, du coup, il n'y a pas d'horaire, on s'en fout. Enfin, passer, traîner en bord de Dole, vers le quartier des Aviateurs. Il y aura un peu de musique, vous allez nous trouver et on pourra écrire des lettres ensemble, que ce soit à Fabrice ou à d'autres personnes. Voilà.
Et du coup, peut-être pour aussi faire une pause émotionnelle avec toutes ces infos un peu dures qu'on a données depuis tout à l'heure, peut-être qu'on peut faire une petite pause musicale avec une musique de Gutter Spectator, si je ne me trompe.
Donc on va...
Il y a le podcast qui s'est lancé.
Après cette pause musicale,
bah.
On est de retour. Et alors du coup, on rappelle, pour écrire à Fabrice ou à d'autres personnes, il y aura donc un atelier d'écriture le 14 juillet sur les bords de Dole, proche du quartier des Aviateurs. Donc en gros, vous pouvez vous balader sur le bord de Dole. Il n'y en a qu'un. D'accord. Et vers le quartier des Aviateurs. Et à un moment...
C'est à Bois Blanc.
C'est à Bois Blanc. Voilà. Le quartier des Aviateurs à Bois Blanc. Et à un moment, vous tomberez sur des gens qui, normalement, écrivent des lettres. Et alors, pour passer à la seconde partie de l'émission, Mito, tu voulais nous parler de la loi narcotrafic.
Ouais, j'en ai pas fini, je continue tout le temps, je vous en parle à chaque émission. Non, en vrai, le débrief de la loi narcotrafic, on a fait le mois dernier. En vrai, c'est disponible sur Radio Campus, voilà.com, Lille, je sais pas trop, ou sur le nouveau site Lille Antitol, si on arrive à finir par le retrouver un jour. Voilà, c'était juste ça. Là, je voulais juste vite fait dire qu'il y a eu une micro-censure de la part du Conseil constitutionnel qui a supprimé quelques articles vraiment à la marge de la loi narcotrafic, comme par exemple la généralisation des vidéoconférences maintenant. Enfin, normalement, ça devait être une généralisation totale pour ces détenus poursuivis par la loi narcotrafic. Bah, finalement, ce sera seulement à la demande du juge. Voilà. Bon. Par exemple, le dossier coffre, pareil, dont on a beaucoup parlé, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est aujourd'hui. Allez écouter l'émission du mois dernier. Il faut que la décision soit spécialement motivée pour que le prévenu ait accès aux preuves présentées à son encontre. Ou encore, ils restreignent la possibilité d'activer à distance les appareils électroniques pour faire des écoutes aux délits commis en bande organisée et punissables d'une durée égale ou supérieure à 5 ans, alors qu'avant ça concernait tout le monde. Voilà, bref, on parlait juste un peu tout ça. Bon, le plus important dans cette loi, en vrai, c'est quand même les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée. On en a déjà parlé, mais bon, ça va être un isolement total. 4 ou 5 prisonniers par aile maximum. Les parloirs se feront avec hygiophone, du coup, sans possibilité de contact physique avec ses proches. Des fouilles à nu quasi systématiques. La suppression de l'accès aux UVF, unités vie familiale et aux parloirs famille, ce qui permet d'avoir des parloirs un peu plus longs et de passer du temps avec ses proches. Réduction de droit de téléphoner à 3 fois 2 heures par semaine. 2 heures de promenade quotidienne maximale à l'isolement avec des matons dans la mini-cour, interdiction de travailler et interdiction de participer aux activités. Voilà, ça c'est le Conseil constitutionnel, il le censure pas, l'État français il est d'accord avec ça. Voilà, du coup suite à ça, j'en parle pas pour rien, c'est parce que là juste maintenant on va écouter un petit podcast d'une personne qui était enfermée dans les années 70 dans les quartiers de haute sécurité, et les quartiers de haute sécurité ils ressemblent fortement à ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Du coup on trouvait ça assez intéressant de écouter une personne qui est déjà passée par là, même si le mois dernier on avait écouté Libreflow, une lettre de Libreflow, ou que même Maya tout à l'heure dans sa lettre parlait de ce que ça fait d'être à l'isolement sur un temps long. Voilà, du coup bonne écoute et peut-être on se retrouve dans 20 minutes.
Et alors juste avant de lancer le podcast, si vous voulez nous écouter l'émission du mois d'avril, on a retrouvé le site, donc c'est https Lille antitaule.noblogs.org. Voilà, donc on vous laisse avec le podcast sur une personne qui est passée par les quartiers de haute sécurité.
On va discuter un peu de tes moments d'incarcération et puis des longs moments d'isolement, QHS, quartier d'isolement, etc. Toi, tes premières incarcérations, donc c'est aux alentours des années 68-69.
69.
Et puis après, tu vas faire une longue période d'incarcération de 80 à 93.
13.
Pour replacer avec l'histoire des QHS, des quartiers d'isolement, les QHS ont été créés donc sous Giscard en 75, et puis jusqu'à 82 où Badinter supprime les QHS, création des quartiers d'isolement, donc voilà, qui change pas grand chose, on change de nom, on en reparlera. Et tu disais notamment par exemple que même après 82, tu vois, ça a continué, 83, etc. La suppression réelle des QHS en tant que telle, voilà, a pas été véritablement supprimée. Est-ce que toi, donc, tu arrives, ton expérience d'isolement en QHS démarre au Baumettes en 80. Tu peux raconter un peu les caractéristiques aussi de ces QHS, de ces quartiers dits quartiers haute sécurité.
Alors, dans ces quartiers de haute sécurité, donc le fait est que tu avais par exemple le Baflan en béton qui était du béton. Tu avais la table qui était en béton et qui était fixée. Ça restait du béton. Tu n'avais pas droit à tes affaires. On te mettait en groguet. Tu n'avais pas droit à tes affaires personnelles, contrairement aux détenus qui sont prévenus en bâtiment. Donc, à partir du moment où tu étais en groguet, et tu avais tes affaires personnelles, y compris les cantines, ce que tu pouvais cantiner, dans un placard à l'extérieur du QHS. Donc, si tu préfères chaque fois que tu voulais, je sais pas moi, si tu voulais boire un ricoré, si tu voulais prendre un truc que tu avais acheté, il fallait appeler le surveillant, et pour se faire ouvrir la porte, pour lui demander ce que tu voulais, Et c'est ce que tu donnais ça au compte-goutte. Alors tu prends, évidemment, il se faisait un malin plaisir à ne pas entendre si tu l'appelais, et ainsi de suite. Ce qui fait que moi, d'emblée, ayant très vite compris ce système-là, je me suis privé de tout. Pour ne pas, parce que c'était. Pour moi, je pratiquais le principe du refus, de me soumettre, de baisser la tête, y compris devant un surveillant. C'est pour ça que quand on dit les surveillants gentils et pas gentils, les surveillants, aujourd'hui, si c'est leur mettre des cagoules, c'est pas pour rien.
Hein. Au Baumette, tu t'es révolté aussi, tout en étant au QHS?
Oui, tout en étant au QHS, parce que chaque fois que j'ai faussé compagnie, parce qu'on vient te chercher pour quelques mouvements que ce soit, que tu dois faire, que ce soit psychiatrique, psychologue, tout ce que tu veux, ou avocat, on vient te chercher, il y a un brigadier et deux gardiens qui viennent te chercher. Et quand on te fait traverser les coursives pour t'amener à l'endroit où on doit t'amener, on fait rentrer les gens, c'est-à-dire tu ne dois voir personne en gros. Voilà, tu ne dois voir personne. Donc, moi j'ai réussi à leur fausser compagnie plus d'une fois. Parce que t'es pas enchaîné, tu vois, t'es pas, ils t'amènent comme ça. Bon, après, ils hésitaient à me mettre les chaînes aux pieds. Hein. Mais chaque fois que je leur ai fait cette compagnie, je leur ai fait cette compagnie d'une rapidité. Bon, je faisais plein de sports au QHS, j'avais que ça. Hein. Donc, j'étais comme ça, j'étais en pleine forme, on va dire, au moins au niveau physique, je me maintenais. Et donc, chaque fois que je leur faisais compagnie, ça aboutissait à une révolte. C'est-à-dire qu'un coup, je montais par les gouttières du QHS, je me suis retrouvé sur les toits des QHS. Une autre fois, à l'avocat, je suis monté sur les toits parce que j'avais observé qu'il y avait une lucarne où c'est que... donc, j'avais poussé la table à l'avocat, il était mort de peur, le pauvre. Bon, et j'avais dit, non, mais toi... hein. Et donc j'étais monté par la lucarne, j'avais accédé au toit. Une autre fois, je leur avais faussé compagnie à la hauteur du bâtiment A. Bon, ben, il faut savoir qu'il y avait le bâtiment B et le bâtiment A au Baumette. Et puis ensuite le greffe, les avocats, tout ça. Bon, donc à la hauteur du bâtiment A, je leur ai faussé compagnie. Là, j'ai grimpé, parce qu'il y a 4 étages, hein. Il y a 4 étages. Là, j'ai grimpé à l'extérieur. J'ai grimpé entre les gouttières et les lampadaires. Bon, après, il y a des gens qui m'ont envoyé des draps de leur cellule. Je m'accrochais au drap, je continuais à grimper avec le drap. Bon, je suis monté sur les toits. Après, j'ai réussi à interpeller les gens qui étaient dans des cours pour qu'ils montent. Qui m'ont rejoint, et après, ben, je transigeais avec le procureur la reddition. Alors, chaque fois, je lui disais, je le fais au nom de mes camarades qui m'ont désigné comme porte-parole. Bon, d'où l'anecdote où les procureurs, les machins, me disaient, ouais, mais enfin, vous, on vous choisit toujours comme porte-parole.
Sur les 5 ans à peu près que tu as fait QHS, isolement, etc., puis tu as eu préparé, c'est ce que tu disais, à peu près un an de cachot à chaque fois.
Chaque fois que je faisais compagnie, bon, ben, tu comparais au prétoire, qui est le jugement interne, et quand je comparais au prétoire, ben, c'était 45 jours de cachot, ouais. Et puis 46 jours de cachot, attention. C'est pour ça que là encore, je reviens sur ceux qui disent les gentils matons, pas les gentils matons, non, mais lui il est bien. Moi, ils m'ont pris à coups de lance à incendie, à poil, au fond du cachot, comme ils font aux États-Unis. Hein. Il faut pas rêver. Hein.
Le matin.
Bon, ouais. parce que je me rebellais. Non, parce que je me rebellais. C'est certain. Mais bon.
L'idée en QHS, c'est de faire rencontrer personne. Tu dois absolument rencontrer personne. Tu es dans le bâtiment, c'est ça.
Ouais.
Donc ça fonctionne.
Et personne en cours. C'est-à-dire que tu sors seul en cours de promenade. Tu as droit à une demi-heure de promenade le matin, une demi-heure l'après-midi, mais tu sors seul.
Tu disais aussi, pour te couper les cheveux aussi, il y a le côté... Ils veulent à tout prix te raser la tête.
Voilà, ils veulent à tout prix que les gens aient les cheveux très 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 courts sur la tête, et puis surtout qu'ils soient toujours imberbes. Bon, moi, par, mais ça, dès 80, dès mon arrestation, par opposition, moi, j'ai gardé les cheveux longs et j'ai gardé la barbe. Après, par opposition, je vais te donner un autre exemple. Bon, ça, c'était quand tu comparaissais en tribunal ou n'importe quoi. Le treillis est interdit. Moi, j'avais fait rentrer un treillis. Et je mettais le treillis. Je comparaissais, j'arrivais dans le box en treillis, je leur disais au revoir, messieurs, je ne vous reconnais pas. Enfin, je ne leur disais pas que c'était même pas de cette façon. Des fois, j'étais très insultant. Moi, un jour, j'avais dit au président, mais dites-moi, d'après l'âge que vous avez, vous avez dû juger les résistants pendant la guerre. Alors, évidemment, c'est des choses qui ne leur plaisent pas. Un jour, un procureur, il parlait, tutitata. Bon, ça, c'est avant que je quitte le box, quoi. Alors, j'ai dit, mais Manier, tu... Oh, monsieur le président, il emploie le tutoiement. Citoyen Manier, sache que depuis la Révolution française, 1789, je leur faisais un cours d'histoire. Ils étaient malades. Ils ne pouvaient rien dire. J'ai dit, citoyen Manier, malade. Et après, je tire ma révérence parce que moi, je ne vous reconnais pas. J'ai dit, je suis venu, je suis rentré dans le box par respect du jury populaire. Mais aujourd'hui, je dis au revoir, parce que vous, les magistrats, je ne vous reconnais pas.
Les parloirs aussi, c'est particulier, aussi, quand tu es en QHS aussi.
Oui et non, dans le sens où... Ben, c'était particulier à l'époque. À l'époque, il y avait des vitres, hein. Il y avait tout ça. Bon, donc, si tu préfères, tu parlais à travers la vitre, à travers l'hygiophone. Bon. Non, là, ils te laissaient... Bon, après, il faut faire attention à ce que tu dis. Parce que sinon, ils te coupent tout, ouais. Ils te privent de parloir et tout.
Il y a eu des révoltes, d'ailleurs, sur les parloirs aussi.
Révoltes pour les passoires, moi, ça aussi, c'est moi qui les ai menés au Beaumont, pour faire supprimer les hygiophones. Parce que, comme les QHS, la gente matonesque a beaucoup de difficultés à admettre qu'une loi est passée. Donc, ils gagnent encore du temps. Et moi, je me suis battu, là aussi, pour... j'ai dit non.
Oui.
La loi est passée, vous devez supprimer les hygiophones. Ils avaient trouvé l'option, les matons, de garder le muret, parce que l'hygiophone repose sur un muret. Donc de garder le muret qui crée une séparation avec ton visiteur. Ah oui, non mais attendez, on n'a pas ci, on n'a pas là. Bon, après je me suis battu pour que casse les murets, pour avoir un vis-à-vis normal avec les visiteurs. Bon. Si tu préfères, toute entrave à la liberté, à un droit d'expression, je me révoltais. Je te donne un exemple, en 84, donc j'étais en QHS. Il y a les premières élections régionales en Corse. Bon. Là, je me suis battu parce qu'il ne voulait pas que je vote. Je dis, je regrette. J'ai dit, en tant que prévenu, on a le droit de vote. On n'est pas jugé, on n'est pas condamné. Donc, on a le droit de vote. Donc là, j'avais fait voter et j'avais nommé mon avocat comme représentant pour porter mon bulletin de vote. Donc l'avocat, il est venu, bon, pas que moi, c'est-à-dire mes deux co-inculpés aussi, il est venu les récupérer. Nos trucs, on a eu droit à la carte électorale. Bon, il avait là, hein. Inutile de te dire qu'il avait là, hein. Parce que tu es obligé, l'administration pénitentiaire, l'administration judiciaire, à exiger, à avoir ton droit de vote, tu peux savoir qu'ils n'étaient pas contents, hein.
T'as été,
J'utilisais tout ce que je pouvais au niveau des lois existantes et au niveau aussi des lois internationales. Parce que des fois, je disais, oui, mais ça, c'est reconnu national, mais internationalement, non. Donc, j'ai beaucoup... Bon, tu me diras, j'avais préparé à l'époque, j'étais monté jusqu'à... C'est pas un examen, c'est... Bon... En droit, une capacité de droit, tu vois.
Oui.
Bon, après j'ai arrêté. Mais j'ai arrêté, si tu préfères, au niveau des études, mais j'ai continué à étudier le droit. Que ce soit les codes pénales, codes internationales, que ce soit...
T'as été dans des collectifs, tu as de lutte, t'as été
à la SPF,
c'était alors, l'association...
Alors la SPF, ça avait été montée...
Ça voulait dire Association syndicale des prisonniers...
Association syndicale des prisonniers de France. Ça avait été montée par Jacques Gambier, qui avait été incarcéré, qui avait un gros soutien de la Fédération anarchiste, d'avocats de Fédération anarchiste, de chanteurs... Bon, moi, je suis rentré, donc évidemment, j'avais contacté Jacques Gambier, j'ai été nommé vice-président, et j'ai commencé à alimenter en prison, au Beaumet, par courrier, par massif, par là, une section qui pouvait, il ne pouvait rien faire. Et le but, ça a été la première action qui a été faite de la SPF, ça a été, nous sommes une association syndicale. Vous ne pouvez pas refuser à un membre syndical d'assister à une assemblée générale. Et on avait organisé à l'époque l'assemblée générale à la rue des Vignoles, ici à Paris. Et donc on disait, il faut à tout prix que chaque militant associatif puisse se rendre à l'assemblée générale. Ça avait posé un drôle de problème de droit. Parce que, alors il disait, oui, mais on ne peut pas, non, mais même si vous m'accompagnez, même si vous m'attachez, vous m'accompagnez, imagine-toi, il faut, bon, ils n'avaient pas accédé, hein, ils n'avaient pas accédé, mais bon, on leur avait planté des trucs comme ça, de loi, mais des trucs fabuleux, quoi. Ils étaient malades, malades, malades. Et ils ne pouvaient rien dire, et les avocats relayaient dehors, donc, bon, et à partir de là, a commencé aussi à s'établir les relais, hein, à l'extérieur. Bon, à partir de là, nous sommes restés bien sûr en contact avec des anarchistes, tout ça. Et après, bon, ben, dans la suite des combats personnels que j'ai menés, moi, j'ai toutes ces raisons ont fonctionné, quoi. Voilà. Donc, il y a eu réseaux. Après, il y a eu réseaux qui se sont un peu plus durcis, parce que bon, des fois, je disais, oui, ben, vous êtes bien gentil, mais bon.
C'est ce que tu as toujours dit. Tu as toujours dit que tu pouvais jamais dire faites comme moi, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as du soutien, tu vois, où tu crées des collectifs, des organisations, etc., où tu n'es pas seul.
Tu peux pas demander aux citoyens lambda
de faire
comme toi, sous le prétexte de dire bon, écoute, moi je me bats, tu n'as qu'à faire pareil. Le gars. Qui n'est pas assisté, le gars qui n'a pas de famille, le gars qui n'a pas de contact, qui n'a pas de machin, tu peux pas. Ou alors c'est toi qui deviens dictateur, là. Moi, je regrette.
Quand les QHS donc, ont été supprimés, enfin le nom QHS a été supprimé, il y a eu les quartiers d'isolement.
Oui.
T'as vu une différence?
Non, ils ont scié les trucs de la table, mais bon.
C'est tout, le truc du parloir.
Et puis tu as eu accès à tes affaires, tu as eu accès à ta cantine, tu l'avais dans ta cellule, voilà.
Oui, tu pouvais avoir tes affaires, c'était la seule différence.
Au lieu d'appeler le matin, au lieu de, tu vois, donc ben, à partir de là, j'ai cantiné. C'est pour ça que, comme on a eu accès à nos propres affaires, c'est pour ça qu'après j'ai fait rentrer les triés, malgré leur interdiction. Ils voulaient pas que les gens, même les couleurs, quelque chose qui était kaki, ils le voulaient pas. Et moi, par opposition, bon, je faisais tout l'inverse.
Après, donc, il y a eu pas mal de révoltes. Il y a eu des mouvements importants de lutte contre les QHS aussi à l'extérieur.
Oui.
Toi, tu avais écho de donc Knobel Peace, évidemment, avec son livre QHS.
Oui, mais il était encore dedans. Hein,
oui, il était encore. Ouais. Et
il avait écrit Voleur de poule aussi.
Oui, c'est ça, c'est un de ses livres. Il écrit aussi un livre où il raconte ça aussi, Voleur de poule.
Parce qu'au début, quand il a arrêté, bon, c'était un petit. Là, on revient encore dans au phénomène social. Bon, il n'y a pas de fatalité.
Ouais, il y avait la préface de Foucault dans le bouquin de Nobel Peace, tu vois, qui raconte que depuis le 19e siècle, tu vois, il y a toujours eu cette volonté de faire deux groupes de prisonniers, comme tu as les pauvres types d'un côté et puis de l'autre, tu vois, les dangereux,
les méchants.
Voilà, les méchants,
les bons, les méchants,
ceux qui résistent. Et donc ça permet aussi, on les met en QHS, donc parce que t'es dangereux, considéré comme dangereux, mais aussi ça explique, on va jamais te sortir parce que tu seras dangereux aussi vis-à-vis de la société, tu seras dangereux dehors, donc t'as cette étiquette de dangereux, si, tu si, vois, si. À l'intérieur, c'est indéfini, quoi, tu vois, c'est un enfermement.
Non, mais non, et puis en plus, bon, c'est une vaste fumisterie, parce que si tu es dangereux et que tu finis ta peine, donc on lâche un dangereux. Non, ça c'est un phénomène, ils criminalisent les gens. Bon, je dis pas qu'au passage, il n'y a pas des fous furieux, hein. Ça existe aussi, hein. Comme dans toute société, comme dans tout groupe humain, hein. Il y a toujours des gens qui relèvent plus de l'asile psychiatrique,
Bon. Bien sûr.
Voilà. Mais, quand tu refuses, d'une façon sociale ou d'une façon politique, bon, l'un rejoint l'autre, hein, de toute façon, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Donc on te criminalise. C'est une fumisterie.
Et puis il y a les séquelles que ça entraîne, tu vois, un enfermement dans l'enfermement en plus, tu vois.
Tu as des poussées d'adrénaline que, évidemment, tu peux très bien ne plus avoir dehors. Bon, moi, si tu préfères, à travers toutes ces révoltes, et puis à travers, y compris ma libération, j'ai toujours veillé, mais comme je le dis, parce que j'étais encadré, parce que j'ai pu le faire, j'ai toujours veillé à ne pas sortir bourré de haine, parce que c'est pas bon. Si tu sors un bête furieuse, c'est pas bon. C'est pas bon. Demain, tu vas t'accrocher avec quelqu'un, tu vas le tuer alors. Tu vois ce que je veux te dire? Tu n'as plus de notion de ce qui est bon, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Ou l'autre alternative, c'est de sortir complètement à plat ventre. Bon, moi, je me suis toujours arrangé pour... J'ai veillé à ne pas sortir fou furieux et à ne pas sortir à plat ventre. Mais, ceci dit, tu laisses quand même des plumes. Parce que tu ne mènes pas des combats, même en étant soutenu comme je l'étais, tu ne mènes pas des combats indéfiniment comme ça, sans laisser de plumes, ce n'est pas vrai. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis sorti. Beaucoup de gens me disaient « Ah, tu es bien, hein, tu es bien. » Oui, j'étais bien physiquement, moralement, intellectuellement, j'apparaissais bien. Mais au bout de 2 ans, 3 ans que j'étais dehors, je me suis rendu compte que je venais de passer ces 2-3 dernières années, c'est-à-dire suite à ma libération, et que je commettais pas de choses, mais que j'étais pas tranquille, quoi. Je me suis rendu compte que... je me suis rendu compte qu'on a laissé des plumes. Et puis encore aujourd'hui, ça avait, même avec le temps passé, par exemple, côté relationnel, j'arrive plus à avoir de relations... Tu vois, si tu préfères... Je suis sorti avec des braves filles, c'était pas elles. Mais moi, au bout de 6 mois, ça craquait.
On est de retour après ce podcast et du coup, Mito, est-ce que tu veux réagir vite fait
Ouais, de ouf.
C'était juste une minute.
Ouais, on va faire court. En vrai, on aurait bien aimé développer un peu plus. C'est tout. En vrai, on ne sait pas programmer l'horaire. Enfin bref, bref, fallait faire court. Juste, en vrai, on voulait rappeler que dans les années 70, en vrai, il s'est passé plein de choses dans les prisons françaises. Il y a eu plein de mouvements de révolte. Il y a eu sous différents types, et c'était suivi aussi à l'extérieur. Du coup, il y avait une connexion entre les révoltes à l'intérieur et les mouvements de soutien qui pouvaient avoir lieu à l'extérieur, ce qui a permis l'abolition des QHS en 82. Voilà, ça c'était quand même super important de le dire, qu'en fait, quand les prisonniers et à l'extérieur, on met la pression sur l'État, bah des fois l'État, en fait, il lâche un peu du lest parce que ça devient trop dur pour lui à gérer. Et en petit commentaire pour finir, Désolé, je suis un peu stressé vu qu'il faut aller vite. En gros, c'est ce que le mouvement des DPF essaye de faire, même si ça vient principalement de l'extérieur. En vrai, le contexte de la dernière année écoulée, c'est la loi narcotrafic, c'est la fin des activités en prison, même si ça a été retoqué un tout petit peu par le Conseil d'État. C'est des prisons en préfabriquées, c'est la chasse aux prisonniers étrangers quand ils sont à l'intérieur des prisons pour les expulser. Enfin, en gros, c'est Darmanin qui déclare la guerre aux détenus. Et du coup, bah forcément, ça crée des réactions. Et le mouvement des DPF, de notre point de vue à l'arrache, et je pense j'espère qu'on est plein à le partager, bah c'est juste essayer de rééquilibrer un tout petit peu, vraiment à la marge, ce rapport de force